Perrault, disponible en balado sur schiste.ca.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Schiste 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Schiste 94.3 et en balado-diffusion sur www.schiste.ca. This ain't just a dream. Traffic jams in my bloodstream. Standing by the water. River blowing off that steam. This take takes my friend. It will listen back to me.
Écoute ta conduite anti-sportive, édition du mardi 8 février, il est 14h30. Ladies and gentlemen et les gens non-binaires, je suis Gabriel Tremblay en compagnie de Jonathan Paradis à mes côtés. C'est à moi. Ma gauche toujours, hein, dans mon
C'est
coin
moi.
Gauche. Yeah, on attend toujours notre tierce personne, notre ailier droit, notre comparse de trio.
Ouais, Pierre-Alexandre Tremblay. La pièce manquante du trio.
Ouais, la pièce manquante. La pierre angulaire aussi, l'âme, le cœur et l'âme de cette émission-là. Quand PE n'est pas là, c'est vraiment merdique. La qualité est d'entrée de gamme. Mais non, on fait des blagues ici, là, quand même. Joe, t'es excellent.
Il y a bien de la jasette, ben en tout cas. Contrairement à moi, là, des fois. Mais aujourd'hui, on en a avoir, en tout cas. Hey, moi, j'en ai plein.
Je pète le feu, littéralement. Là, genre, je suis sans dessus-dessous. Je suis gosse, si tu viens. Capitaine et moi, quelque chose. Voilà. Écoute, on a... dans le monde du hockey, évidemment, ça a été tranquille à cause du week-end des étoiles à Vegas, hein? La ville du jeu et du vice, disons ça. Il y a aussi les Jeux olympiques qui ont commencé depuis la dernière émission.
OK, ouais.
Et toi, c'est ton dada.
Ouais, ça vient me chercher un peu plus.
C'est ce que tu consommes récemment. De mon côté, avec PA, entre autres, samedi, on a écouté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que se dit Pierre-Alexandre entre en ce moment même en studio, tel un grizzly qui rugit.
Un beau grizzly,
un beau petit ours. Yes. On est allé au Troquet écouter du soccer africain. Grosse finale entre le Sénégal et l'Égypte. Mais avant toute chose, commençons l'émission en bonne et due forme, en musique, avec le groupe Shame et la pièce Snow Day, parce que Snowboard is the name of the game pour Maxence Parot, qui a remporté la première médaille d'or du Canada à ses 10 Jeux olympiques. Lui qui sortait d'un cancer, ne serait-ce qu'en 2018, quoi. Pas plus tard qu'en 2018. Donc
2019, 2018,
whatever. Bravo à Maxence Parot. On s'en va écouter Shame, Snow Day, conduite antisportive, c'est le nom de la mission.
slowly through the holes and dampens my skin. I feel the sting of Mother Nature. I'm gonna close my eyes, and this is the only place I can do it. At the top of this hill, I sit down.
C'était Shame et la pièce Snow Day sur les ondes de Schiste 94.3. Vous écoutez Conduite Antisportive, PA.
Oui.
Bienvenue à l'émission.
Mais merci beaucoup. J'arrive sur, comme un cheveu sur la soupe. Comme... Et hier, j'avais dit, la semaine passée, j'avais dit que venir ici, ça prenait 45 minutes. Ouais. Quand il y a du trafic, on parle d'un bon 52.
52. Donc, ceux et celles qui partent de Saint-Sauveur, coin Raoul Jobin.
Non, pas là. Non, je parlais de
Cégep Limoilou. Donc, c'est ça pour les nouveaux étudiants et les nouvelles étudiantes.
Les nouveaux étudiants, vous voulez savoir.
Prochainement. 52 minutes.
52 minutes.
Cégep Limoilou, Université Laval. Voilà, en 800 quoi.
En 800, oui.
En 800, voilà, 800, c'est quand même merdique. Bref, nous, on n'est pas là pour parler du RTC, mais on est là pour parler de sports. Joe, t'as couvert les Olympiques pour nous. T'étais directement à Pékin en fin de semaine.
J'étais à Pékin, en effet.
Tu viens de prendre un vol.
Ah, c'est ça, le petit tombe balzané, t'as pris le soleil de Pékin.
Ah non, ça a l'air assez complexe en plus là-bas avec les la bulle olympique, là, la fameuse bulle qu'on connaît. Donc, ben oui, les Jeux olympiques, ça a commencé vendredi passé à 7h du matin.
Heure de l'Est.
Ouais. Donc, à cause du fameux décalage, il faut s'ajuster un peu. Mm-hmm. Ça défait un peu ton cycle de sommeil, mais bon.
Toi, tu dors déjà des heures bizarres, là, on s'entend.
Je suis déjà bizarre, ouais, c'est ça. Avec, étant barman, je connais un peu des heures.
C'est ça, c'est ça.
Des heures loufoques, mais quand même, la cérémonie, ça a commencé, on a pu voir aussi avec le porte-drapeau pour le Canada, Charles Hamelin et Marie-Philippe Poulin, qui est la capitaine de l'équipe Canada. Je vais en parler aussi. Mais bon, Canada se porte 11e en ce moment sur 91 équipes.
OK.
Le Canada a 6 victoires. 6 victoires.
6 médailles.
6 médailles, ouais, on va prendre des bons termes. Donc, une médaille d'or. Donc, je vais en parler tout de suite. Max Parot, comme tu as pu introduire en début d'émission. Max Parot qui remporte donc la médaille d'or en
snowboard.
Snowboard, en plein ça.
C'était-tu le big air, les boss? Non, c'est. Il a gagné?
Non, le slopestyle.
Le slopestyle.
C'est assez impressionnant à regarder si vous n'avez pas vu sa performance et les autres aussi en tant que tel. Surtout El Chinois aussi, lui qui est arrivé en deuxième, là, Yiming Su. Okay. C'est pratiquement comme regarder un jeu vidéo. Là. C'est ça, ça a l'air vraiment. C'est tellement animé. Tu les vois bouger tous les bords. Puis les termes que l'animateur dit, c'est quand même assez. Tu peux t'y référer quand même assez rapidement. Ouais, ben, là, ça y va avec des 1500, 1600.
C'est assez familier de ce que je comprends. Là, puis je pense que l'animateur, en tout cas à RDS ou à Radio-Canada,
Radio-Canada.
C'est l'entraîneur de Maxence Parot. Donc, c'était
en plus.
hier, j'en parlais avec Félix qui anime Chérie, j'arrive. Puis il me disait que le gars disait. Ah ouais, il nous a fait vivre des émotions, le Max. Là. Comme si c'était son bon chum de gars. Mais en fait, c'est son bon chum de gars.
Ben, il s'est réjoui à sa performance. Il a bien crié.
Moi, sérieusement, le slopestyle, j'aimerais bien avoir pour être dans l'immersion, puis vraiment me sentir, puis avoir cette touche, me sentir. J'aimerais avoir la playlist, ça soit du Sum 41, Taking Back Sunday.
Ouais, full emo. Peut-être de Ramones aussi.
Allez, Ramones.
Ça pourrait fitter.
Ça pourrait être le DJ des Olympiques au slopestyle, pire.
La chaîne, si vous écoutez l'émission, je suis disponible.
La Fédération sportive chinoise.
Oh, me connaissant, je vais tellement essayer de troller, je vais me ramasser en prison, c'est clair. Je vais mettre juste la tonne de Winnie l'ourson, puis je vais être en prison.
Puis là, on va te faire écrire quelques tweets de temps en temps. Je suis sain et sauf, je suis en vie. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais non, ça c'est un petit clin d'œil, pas un clin d'œil, Caroline, mais une référence à Peng Shui, la joueuse de tennis, qui est encore. Ben on sait pas, en tout cas.
Non, en fait, je pense qu'elle.
Elle a encore nié que c'était. Elle a jamais été captivée. En tout cas, c'est un peu. Ça semble stagé tout ça.
Ouais, ça commence à être tiré par les cheveux, cette histoire-là. Bref, retour. Max Parot, dans le fond, 2018, on sait, il a gagné la médaille d'argent à Pyeongchang pour la même épreuve. Et l'année suivante, il a été diagnostiqué avec un cancer du système lymphatique, des tissus. On le connaît surtout avec les X Games, les Winter Games, ou le US Open, avec ses compétitions de Big Air, qui fait beaucoup. Moi, c'est ça, c'est comme ça que je le connaissais un peu, mais pas plus que ça. Sinon, on a aussi en troisième place, on avait un autre Canadien, Mark McMorris.
Ah oui,
donc, on a été bien représentés sur le podium pour cette journée-là. Et Mark McNorris aussi, qui est Canadien, qui a livré une super belle performance aussi. Le troisième, c'est Sébastien Toutain.
Il a fini combien, là?
Il est terminé un peu plus loin, mais il a vraiment livré des bonnes descentes. Il y avait trois descentes, en fait, puis on prenait le meilleur résultat des trois descentes. Mais à la fin, tout le temps, à la fin, il plantait. Juste pour dire son dos de chatter. Mais c'était toujours en fin de parcours, fait que c'était un peu crève-cœur pour lui. Mais du moins, on en a deux sur trois.
OK.
Donc, pour Max Parot et en snowboard, c'est ça. Sinon, le hockey sur glace, le sport pratiquement le plus connu, je dirais, pour nous. En ce moment, c'est le hockey féminin qui bat des ailes. On a le Canada qui bat des ailes justement assez fort. 12-1, 11-1, 6-1, 4-2. Quatre victoires assez...
À ne pas confondre avec avec l'expression « battre de l'aile ».
Ils n'ont pas de plomb dans l'aile.
Ils n'ont pas de plomb dans l'aile.
j'avais pas la
l'équipe
même
canadienne
image
s'envole en tête. En ce moment.
Ouais, en plein ça.
Ouais.
Vous me comprenez là. Ça c'est quand même bien les voir. Hier soir, on a pu aussi voir un match un peu plus serré avec les Américaines. Mm-hmm. Ça a été impressionnant. Un tir de pénalité envers le milieu du match aussi par Sarah Poulain, elle qui rentre les buts à profusion depuis le début. Mm-hmm. Et les gardiennes qui font super bien ça aussi contre la Russie, là, le rock qu'on peut dire. C'est le
représentant à faire le rest. Olympic Committee.
Ah, mais c'est le corps, en fait. C'est le comité olympique russe.
Comité olympique russe.
C'est eux qui sont, je pense, dans les favoris pour gagner peut-être le plus de médailles à ces Olympiques de Pékin. Mais donc, les filles qui jouent, qui terminent au premier rang du groupe A, qu'on va les voir en demi-finale. Puis les filles jouent avec des masques aussi, je sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même assez particulier. Eux, ils se sont habitués, fait qu'ils disent que c'est pas tant un problème. Mais
ça fait beaucoup le casque, la visière, plus le masque.
Oh, c'est du stock. Là, quand tu les vois sur la glace, puis c'est beaucoup de stock. Mais le match a failli être annulé justement avant avec la Russie. Tout, il y a eu des complications.
Ouais,
puis,
fait que, là, l'équipe voulait pas jouer le match, je sais pas trop.
Ouais, mais... puis il y avait peut-être des cas. Okay, on n'a pas pris de chance, on a pris les masques.
Ouais, je comprends.
Donc, l'équipe féminine, du moins, qui est à suivre avec Marie-Philippe Poulin justement comme capitaine.
Je sais pas.
Non, là, je suis pas certain. Ben, tu sais, ils veulent quand même prendre leur revanche de 2018, là, à Pyeongchang. Ils avaient perdu en tir de barrage, si je me trompe pas, contre les États-Unis. Mm. Moi, je m'en souviens, là, c'était au secondaire, on était tous en bas dans le. On avait manqué le cours, dans le fond, là. On avait skippé la cloche, puis on avait tous resté pour regarder la finale. C'était vraiment impressionnant. Mais là, la revanche, donc, qui sonne bientôt, on va voir si le Canada va battre les États-Unis.
À suivre.
On croise les doigts.
Yes. Parce que là, au niveau des médailles, on s'entend, le Canada casse rien.
Non, c'est ça y va tranquille. C'est sûr qu'on est en début, on est jour 5 des jeux.
On a déjà eu quelques déceptions, je pense, au patinage sur courte piste, qu'on a eu quelques déceptions. Patinage de vitesse, les sœurs Dufour-Lapointe.
Oui, en ski, c'est vrai.
Qui ont plusieurs espoirs. Plusieurs espoirs de médailles qui se sont envolés, mais il en reste. Les jeux viennent à peine de commencer, donc ça peut être encore joué.
Mais comme c'est un bon point, là, Justine, on s'attendait à une meilleure performance vu ses derniers jeux. Mm-hmm. Elle qui a chuté quand même drastiquement vers au début des boss, en fait. Et elle a quand même terminé sa course. Ça a été vraiment un moment d'émotion. Là. Je crois que c'est ce que les gens aiment beaucoup dans les Olympiques. Et elle a terminé sa course. Elle a demandé qu'on lui redonne son bâton. Ça a été extrêmement long, mais...
Elle a fini à un bâton?
Non, quelqu'un a été reporter son autre bâton. Okay, puis elle a terminé. Okay, elle a fait son backflip à tout. Nice. Mais sa sœur aussi qui termine 9e. Donc, c'est sûr qu'on avait un peu plus d'espoir, je pense, du côté des sœurs du Four-Lapointe. Ouais. Mais bref, on a Michael Kingsbury donc, qui va nous décrocher une médaille d'argent en ski acrobatique, l'épreuve de boss.
C'est une valeur sûre, lui, quand même.
Puis on a quelques médailles de bronze, justement, gracieuseté de l'équipe mixte de curl, pas de curling. Je fais mes petites recherches, je vous reviens là-dessus.
Le mini-patacate.
Mais c'est
bobsleigh. Bobsleigh et mix.
Mais c'est une équipe mixte, en fait, donc c'est
le
quatre médailles qui ont été attribuées.
Au
sinon,
relais?
Isabelle Wideman.
Au relais en patinage de vitesse, peut-être, non?
Ça, c'est Wideman, dans le fond, Isabelle. Non, elle, c'est courte piste, okay. 500 mètres. Elle a eu la médaille de bronze aussi. Donc, une autre représentante canadienne. Donc, c'est tout frais. C'est le début des Jeux, là, comme je dis. Il y a encore beaucoup de jeux à faire, de médailles à décrocher.
Ben oui.
En ce moment, c'est la Suède qui mène, qui est en première
au chapitre des médailles.
Place. Ouais. Malgré que mon classement n'a pas l'air en ordre, là, d'après. Ah, ben, tu as les médailles d'or qui valent évidemment plus que les médailles d'argent.
Non,
donc, ils ont 4 médailles d'or, ce qui est quand même bien.
Bravo, la Suède. Toi, Béa, est-ce que tu écoutes les Jeux Olympiques?
Non, malheureusement, je n'ai pas écouté les Jeux Olympiques. Par choix personnel, je dois avouer. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ça, c'est que j'ai décidé, un peu avec les circonstances, avec l'équipe hôte, de ne pas écouter. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'espoir olympique et j'adore les encourager, mais malheureusement, pour moi, il y a de quoi qui marche pas là-dedans.
Tout à fait, puis moi aussi. Sans dire que je les boycotte, j'ai un, pas d'intérêt, puis deux, justement, la situation en ce moment en Chine, ça me dépasse. Donc, j'aime mieux pas encourager ce type d'événement. Après, effectivement, je vais encourager les athlètes olympiques canadiens, canadiennes, parce que on est un peu chauvin, là, mais j'en ai rien à foutre, sinon. Donc, c'est vraiment chouette que toi, Joe, tu les suives, parce que ça nous fait du contenu à chaque semaine, puis la semaine prochaine, on en reparle.
C'est sûr, mais je suis quand même d'accord avec vous, puis c'est pour ça que j'aime mettre vraiment les projecteurs simplement sur les joueurs, puis c'est ça que j'essaie qu'on parle sur le plus, puis pas nécessairement l'événement en tant que tel ou tout ce qui s'y rattache, là. Donc, on va essayer de s'en tenir aux performances de nos athlètes canadiens.
Je pense qu'on peut encourager sans endosser.
Oui.
Hein?
Bien dit.
Bien dit. Parfait. Yes, merci. J'ai l'approbation de mes comparses.
Toujours.
Yeah. Hey, les garçons, avant qu'on enchaîne pour parler de soccer et de hockey, je vous propose une autre pièce. D'ailleurs, c'est des Scandinaves aussi. Des Norvégiens, je crois. Ice Age. Finlandais. P.A., tu me corrigeras?
Ice Age, malheureusement. Oui, c'est...
Je pense que c'est Finlandais.
Non, c'est...
Suédois.
Ils sont Scandinaves. La Finlande n'est pas dans la Scandinavie.
Non, ils sont Danois, Colin Bin.
Ah, des Danois.
Copenhagen. Donc, Ice Age, On My Fingers. C'est ça qu'on écoute sur les ondes de Schiste 94.3. Yeah!
Of hunger, but I refuse.
c'était On My Fingers de Ice Age à conduite anti-sportive sur les ondes de Chiz 94.3. J'entends Paradis à ma gauche.
Allô?
Pierre-Alexandre Tremblay à ma droite.
Toujours à ta droite.
À ma droite. T'es toujours à, à l'ouest. À l'est.
Toujours à l'ouest.
À l'est, disons ça. PA, en fin de semaine, Crime Puff, on est allé au Troquet.
Oui, effectivement. J'ai quand même perdu ma tuque. Fait que je suis propriétaire du Troquet, si tu m'écoutes. J'ai perdu ma tuque, je m'en viens chercher demain. Là.
OK. T'as-tu écrit sur Messenger?
Oui, j'ai écrit sur Messenger.
Super. Ben oui, écoute, t'as embarqué dans mon projet d'aller voir la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, communément appelée la CAN aussi, la Confédération Afrique nationale. En tout cas, bref, l'appellation change à chaque année. Il y a des commanditeurs, des pétroliers.
Total Energy CAN.
Total Energy CAN. En tout cas, bref. C'était la finale de la compétition internationale entre les pays d'Afrique qu'on peut comparer à l'Euro pour l'Occident. Hein. La finale qui s'est jouée entre le Sénégal et l'Égypte. C'était un match qui opposait deux vedettes, deux joueurs interstellaires en Sadio Mané et Mohamed Salah. C'était un duel que, en tout cas, l'Égypte a joué de chance tout au long de son parcours à la CAN en multipliant les fins de match en tir au but. Crime Puff, c'est encore allé au tir au but avec le Sénégal en fin de semaine, samedi, alors que le match était quand même assez plate, disons-le. Les 90 premières minutes...
Les 5 premières minutes étaient intéressantes avec le tir au but...
De Sadio Mané, qui est copé d'un tir au but qui a manqué, d'ailleurs.
Et t'as-tu vu la manière qui a fait le tir au but? Il a bavé le goaler en disant... Le gardien, je lançais là, mais le gardien, il a été rapide. Puis...
Effectivement. Le gardien Gabaski, égyptien.
Très bien, très bon match pour
Mon
Gabaski.
Mon Dieu Seigneur, il a changé le cours du match. En fait, ce match-là aurait pu facilement être gagné en temps réglementaire par le Sénégal. Niveau de la possession aussi, 58% contre 42%.
Sur les quatre parties du territoire, le Sénégal a été capable d'être en contrôle sur trois. Et juste en offensive, que des fois, il tricotait un peu trop, ou il y avait une passe de trop tout le temps pour que le jeu ne se développe pas pour un but.
Effectivement, on cherchait la séquence parfaite. On jouait de longs ballons dans les ailes, entre autres comment il s'appelle? Sarr. Ismaël Assar, dans l'aile droite, à gauche avec Mané. Donc, c'était un peu décousu, la tactique du Sénégal. Malgré tout, les gars étaient en jambes. Les gars sont techniquement plus habiles et outillés que les joueurs égyptiens. Donc, ça paraissait. L'Égypte est beaucoup plus tacticienne, très défensive, joue un peu le contre, mais somme toute, attend les ballons arrêtés, puis... est un peu plus opportun aussi, quand même, là. Opportuniste,
c'est ça, moi,
opportuniste aussi.
J'aurais pensé que dans ce match-là, l'Égypte aurait joué de la contre-attaque, du genre qui joue pas mal à la défensive. Ouais. Dès qu'il y a une brèche, qui allait se faufiler pour aller au tir.
Tandis que le Sénégal dictait l'allure de ce match-là de A à Z. Il y a eu quelques bonnes chances de marquer.
Mais c'est un autre problème. Le Sénégal, aucunement, était capable de cadrer un tir.
Effectivement. Sur coup pied arrêté aussi, on a eu une tonne de coups francs quand même bien placés à l'orée de la surface, à peine à 2-3 mètres de la boîte. De multiples déchets techniques, surtout sur coup de pied arrêté. Ça aurait pu coûter cher, justement, ce manque d'opportunisme-là au Sénégal, mais finalement, ça s'est réglé en tir au but. Et qui d'autre que que Sadio Mané qui a raté son coup de pied arrêté au début du match, qui vient donner la victoire à sa nation. 4-2 au tir au but, finalement.
Première victoire du Sénégal
ever, alors que c'est une nation très forte, là, c'est une puissance en Afrique depuis plusieurs années. Voyons donc, c'est quoi déjà son nom? Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe sénégalaise qui a été un joueur de la sélection nationale il y a plusieurs années, était très fier. Écoute, je pense qu'on n'a pas volé notre place en finale du côté du Sénégal alors qu'on a battu des grandes puissances. Là. Bravo au Sénégal pour cette finale. Puis on peut parler aussi de l'ambiance qu'on a eue au Troquet. C'était quand même assez chouette.
C'était vraiment fort sympathique. Quelques personnes qui sont venues assister au match.
Ouais.
On n'était pas une masse, je dois l'avouer.
Non, on était 4-5 fans de foot assis au bord.
Moi, j'ai tombé dans l'ambiance. J'ai jamais autant prié pour l'Égypte. Ouais. Pour ça, dans ma vie, je gueulais dans le bord.
C'était fascinant. On n'entendait que toi. Ouais. Il y a une famille de Français-Françaises qui mangeaient leur crêpe. Puis nous, nous au bar qui gueulait. C'était quand même très, très, très drôle.
Je suis un homme passionné par le sport.
Puis, c'était le fun de revenir dans un établissement pour écouter du sport. Là. Écoutez, je pense que vous devez en profiter. Si c'est le quelque prochain... chose qui vous intéresse, parce que, Colin, on a tellement été privés de sorties comme des enfants un peu trop tannants dans les derniers temps. Donc, ça fait du bien.
Ouais. Enfin, je dirais que ce serait un bon rendez-vous pour aller voir les derniers matchs du Canada en phase.
Hey, tellement, les trois matchs, là. En tout cas, bref, je pourrais vous sortir les dates même à l'instant là, pour la qualification de la Coupe du Monde, alors que c'est dans la poche, à moins d'un revirement miraculeux. Le Canada qui se qualifiera pour la Coupe du Monde au Qatar. On en a parlé d'ailleurs un peu avec les employés là-bas au Troquet samedi. Il reste trois matchs, Jamaïque, Panama et Costa Rica. Ce sera pas facile, surtout contre le Costa Rica, qui est quand même une puissance au sein de la CONCACAF.
Mais le match au Costa Rica, c'est au Costa Rica ou à Hamilton?
Il y en a plusieurs qui vont être à Hamilton. Ça va. OK. Il reste. Attendez-moi, les amis.
Je crois qu'on a maintenant le même effet qu'avec un autre sport. Les Packers de Green Bay ont le Frozen Tundra. Moi, je pense que Hamilton est le Frozen Tundra de la CONCACAF.
Hey, ouais, je pense que oui, vraiment. Donc, Costa Rica, c'est le 24 mars.
Oui. Hey, une journée avant ma fête.
Ouais. C'est le 24 mars. Et si le Canada l'emporte contre le Costa Rica ce 24 mars-là, on s'assure d'une place à la Coupe du Monde. Donc, c'est fascinant.
Fascinant.
C'est légendaire. C'est inexplicable presque. Mais c'est explicable parce que le Canada a vraiment... comment dire?
L'arrogance de la jeunesse.
Rehausser la verve, l'engouement envers le ballon rond là, au Canada dans les peut-être 10-15 dernières années, 20 dernières années. C'était le sport le plus populaire au sein des jeunes pendant vraiment longtemps. Encore, je pense que c'est encore
le sport le plus populaire. Ouais.
Au niveau amateur. Donc, écoute, cette effervescence-là du soccer canadien, ben là, ça se reflète sur des compétitions internationales.
Mais c'est beaucoup éphémère, l'amour, j'ai l'impression, la passion du soccer. J'ai remarqué, pour avoir entraîné longtemps, là, tu vois beaucoup des gens... C'est un sport qui est facile d'entrer, c'est un sport qui est facile d'essayer, et les règlements sont hyper faciles. C'est pas un grand engagement. Puis c'est quelque chose qui est éphémère, je trouve,
Qu'est-ce que tu veux dire par éphémère?
Ben, tu vois,
une basculation envers le sport. C'est, moi, je comprends qu'est-ce que.
Les mots sont pas les plus précis.
C'est que. On est assez vacillant. Ça dépend toujours. Tu sais, un peu ces équipes qu'on les gens prennent pour eux autres seulement quand ils gagnent quelque chose. Le Canada envers le soccer, c'est un peu le même.
Ouais, peut-être un peu.
Mais oui, l'effervescence, c'est le pareil.
Là, je parle pas nécessairement de l'engouement des spectateurs ou de l'audience. Là,
mais pour pratiquer le sport.
De l'attention. Ouais, mais
pour pratiquer le sport. Je trouve que la qualité des ligues s'est montée en flèche dans l'amateur, autant que dans le professionnel. Au Canada, c'est vraiment hallucinant comment ça s'est développé.
Les académies, surtout en Ontario avec Brampton, même à Montréal aussi, il y a tellement de bons jeunes. Puis tu sais, c'est pas juste des fils et filles d'immigrants et immigrantes, là. On s'entend, il y a beaucoup de jeunes Canadiens qui sont développés ici, qui décident de jouer au soccer, alors que tu sais, quand on est jeune puis qu'on n'a pas nécessairement les outils, le contexte et l'argent pour jouer au soccer, au hockey, qui est un sport quand même élitiste, là, on s'entend, ça prend beaucoup de moyens pour s'inscrire puis jouer dans une équipe de hockey.
Non, ouais,
tandis que le soccer, ça prend une paire de pads, des souliers puis des bas. Donc oui, c'est plus accessible, c'est beaucoup plus populiste aussi comme sport. Puis ben c'est pour ça que j'aime ça. Puis c'est un sport intergalactique. On joue sûrement au soccer dans une planète, dans une autre galaxie plus loin.
Ah, c'est vrai que c'est un des sports les plus pratiqués au monde.
C'est ça, c'est le plus pratiqué au monde.
La sélection nationale de Neptune, là.
Un bijou.
J'en doute pas.
En tout cas, mais bref, donc voilà. Puis ben, je pense que justement, c'est un peu les échos de ça qu'on voit cette année au Canada. Donc, on en reparlera éventuellement au mois de mars, mais 24 mars, Costa Rica-Canada, le lieu n'est pas encore annoncé. Donc, on ne sait pas ça va être où. Il y a le 24 contre le Costa Rica, le 27 contre la Jamaïque et le 30 contre le Panama. Donc, hey, c'est comme trois matchs en
assez
une
proche.
Semaine.
Mais après, ça va loin. On a repoussé en fait la Coupe du Monde de 14 jusqu'en novembre-décembre à cause des températures.
Ouais, exact.
Donc, il va falloir prendre son mal en passant quand même.
La température estivale là-bas est comme invivable. Aucun sens. Ça, exact. Donc, à suivre! Hey, j'ai hâte.
J'ai vraiment.
J'ai tellement hâte, les gars. J'en ai de l'urticaire.
Ça va être une bonne semaine, en tout cas.
Yes. Hey, on s'en va en pause publicitaire et au retour, on parle de hockey.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, Québec.
Curieux de revenir à l'époque où il y avait de la flûte partout?
Venez nous rejoindre à Rustic Prog pour une super sélection de chansons rock progressives à découvrir et redécouvrir.
On se retrouve tous les jeudis à 14h à Chiz 94.3.
Le Moi Multi Festival d'art multidisciplinaire et électronique est de retour. Du 3 au 27 février, visitez les installations à Méduse et à l'espace 400e. Expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art, découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Moi Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit. Consultez la programmation au moimulti.org.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Et oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
OK, attention. 1, 2, 3. Chiz!
Vous êtes de retour à Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. Avant qu'on se lance, qu'on parle de hockey, PA, tu nous as préparé une chronique improvisée sur le Pro Bowl au football américain.
Je pourrais même pas dire. C'est le match qui a eu lieu du Pro Bowl, mais est-ce qu'on peut appeler ça un match? J'en ai aucune idée. Personnellement, je trouve que c'est un gâchis de talent, un gâchis de moyens. On a plusieurs joueurs qui sont contre-fous de ce match-là parce que j'ai compris, les risques de blessure est énorme.
Ouais, surtout au foot américain, là,
C'est tant qu'à rendu là, faites-moi du flag football.
Ouais, c'est ça, joue au flag football. Hey, j'ai voté dans le micro, mais dans...
Mais j'ai sur les internets présentement, il y a une idée qui est en train de prendre du devant et qui est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est l'idée de prendre. On n'est plus à l'idée des Pro Bowl. Moi, je pense plus qu'on devrait. Voici les joueurs de l'année. Mais le match Pro Bowl devrait être les deux dernières équipes du classement s'affrontent pour le premier choix au repêchage. Celui qui gagne a le premier choix. Ce serait un match beaucoup plus intéressant avec un enjeu certain.
C'est ça, exactement. Ça prend un enjeu.
Ou sinon, puisque on veut mettre de devant des jeunes joueurs, je dirais qu'on prend les joueurs qui vont être dans la draft cette année. On fait une équipe avec cette équipe-là et on prend les joueurs qui sont encore dans leur premier contrat dans la Ligue nationale de football et avec, disons-le, avec un bonus qui vient avec le match en disant si tu es sélectionné dans ces équipes-là, pour un jeune joueur qui fait peut-être 1 million par année, donc dire, OK, on t'offre à peu près la moitié de ton salaire si tu vas jouer à ce match-là et que tu performes bien, moi, je crois que ça pourrait les encourager à avoir. Et ça présenterait aussi les jeunes joueurs qui s'en viennent dans ta ligue en disant, hey, ce joueur-là s'en vient peut-être dans ton équipe.
Ben oui. On en parlait un peu pendant la pause publicitaire ou avant, PA, mais si on se compare au baseball majeur...
Oui.
Il y a un enjeu.
Il y a un enjeu, mais les risques de blessure...
C'est l'avantage du terrain aussi. C'est sûr que là, le sport en soi est beaucoup moins violent.
Oui.
T'sais, de ramener une équipe de foot pour se varger dans une semaine techniquement de congé entre la demi-finale puis le Super Bowl. C'est aussi le timing que je trouve bizarre, moi.
Le timing à la fin, c'est pas mettre ça
après,
au milieu.
Après, c'est ça aussi.
Surtout que la Ligue nationale de football a augmenté encore d'un match cette année qui va augmenter d'un autre match l'année suivante. Je crois que la saison est assez allongée de même, avoir ce décalage entre le dernier match de football des divisions et le Super Bowl. Moi, j'aime ça qu'il y ait deux semaines pour que tu aies 100% de tes joueurs qui sont disponibles.
Tant qu'à ça, faites-le après le Super Bowl.
Ouais, ça pourrait être une idée de faire ça après le Super Bowl, mais je crois qu'ils veulent un peu garder cet entrain en disant hey, regardez, écoutez pas d'autre chose pendant cette fin de semaine-là, on reste dans le football, mais bref, c'est vraiment une joke ce match-là. Changez de quoi, s'il vous plaît, la Ligue nationale. Ouais, mais tu sais, en même temps, au milieu du calendrier, j'aime pas trop ça. Imagine si les Mets sont en compétition, ils sont sur le bord de faire les séries, et Pete Alonso se blesse parce qu'il a fait trop de coups de circuit. T'es en maudit. C'est genre, c'est parfait, clair. T'as présenté ton joueur, mais tu viens de le perdre.
Ouais. Après, tu sais, je veux dire, il frappe des ballons de plage, là.
Il frappe des ballons de plage, mais c'est quand même de la puissance.
La pratique au bâton le matin même est aussi.
Mais pas autant mais que là d'aller dans la puissance et d'aller dans les estrades. Il y a quelques joueurs qui se sont blessés dans les home run derby dans les coins des dernières années. Puis personnellement, c'est toujours un danger, mais pour la qualité de ton sport, pour la présentation, c'est quand même des choses intéressantes.
Effectivement.
J'aime bien la Ligue nationale de la NBA qui font un match des étoiles. Ouais. Avec d'autres personnes, avec le gars de Arcade Fire qui fait toujours une excellente performance.
Ouais. c'est un peu loufoque, là, farfelu, tout ça, mais effectivement.
Moi, juste pour plaquer Pauly Short, j'embarque. Là.
Non, exact. Et tantôt, j'ai roté dans le micro et ce rot est une commandite de Robin, bière naturelle. Péa, tu m'as amené ça parce que t'as perdu ton pari
samedi. J'ai perdu mon pari samedi. J'avais pris 2-0 pour l'Égypte et t'avais pris pour le Sénégal.
Ouais, j'avais dit 1-1 tir de barrage Sénégal. Donc, j'étais pas loin du score final. Donc, tu m'as amené cette bière-là qui est franchement excellente. C'est une saison à la rhubarbe.
Qu'on peut acheter à la Supérette, rue Saint-Vallier, à Québec, Saint-Sauveur.
Donc, les cantons de l'Est à l'honneur à l'émission et dans le micro. Donc, voilà. Joe, toi là, t'es comme notre fan incontesté de hockey. Tu veux toujours parler du Canadien, puis moi je te fais des volte-face. Je veux skipper, je veux parler d'autre chose parce que j'en ai plein mon casque du Canadien. Puis c'est pas un mauvais jeu de mots avec le nom de l'émission, mais ça peut l'être si vous voulez. Si tel est votre désir. Écoute là. Les activités ont repris. Moi, sérieusement, le match des étoiles, je m'en contre-fichais. Toi, tu l'as suivi un peu, là.
Ben oui,
t'as regardé les festivités à Vegas, là, avec les saucer pass dans la fontaine d'eau du casino. Là. C'était
Le chandail d'Average Joe aussi, j'ai tellement adoré ça.
Trevor Zegras, bravo, l'hommage à Vince Vaughn. Oh. En tout cas,
puis c'est lui qui a décroché le highlight du week-end, en fait, là, avec son but blanc, avec les yeux blindés. Les yeux cachés. Les yeux cachés. C'est ça, il fait un super beau but. On lançait aussi des genres de ballons un peu dans sa trajectoire et tout. Mais c'est ça, comme dans les dernières années, la compétition de talent un peu qui se passe le samedi, toujours un peu saucé, là, t'es toujours un peu de moutarde, toujours un peu. Ouais. Des fois, à quelques moments, il y en a peut-être un peu trop, mais ça, c'est vraiment le moment qui a su se démarquer là, dans le week-end, du moins. On a eu le shot le plus rapide aussi avec Jordan Kyrou.
C'est pas Victor Hedman qui a gagné le tir le plus puissant.
Oui, je voulais dire le joueur le plus rapide.
OK, le joueur le plus rapide. Ouais. OK.
Contrairement aux dernières années, que c'était surtout McDavid ou. C'est McDavid qui décrochait tout le temps le premier.
C'est vrai.
Sinon, rapidement, le save streak, c'est l'équipe Atlantique qui a gagné avec Vasilevski et Campbell. Le Fountain Face-Off que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est Zach Werenski, donc avec 25 secondes, qui a réussi à atteindre toutes les cibles.
Okay.
Le shot le plus fort, pardonnez-moi, c'était Victor Hedman, avec 103,2 000 à l'heure.
Quand même, c'est une bonne garnotte.
Une bonne garnotte. On est dans les chiffres de Zdeno Chara.
Oui, c'est ça. On est dans les chez Weber de ce monde aussi. Là.
Victor Hedman
Ça rentre au poste.
Rentre dans cette catégorie.
Qui m'a étonné dans les tirs les plus rapides? Là? Je vais aller voir ça. All-Star match. T'as-tu les chiffres devant toi, Joe?
Nope.
All-Star 2020.
J'ai simplement les gagnants.
Hardest shot.
Sinon, le breakaway, où il y a Alex Pietrangelo aussi qui a gagné avec 64 points. Et ce que j'ai pas eu le temps d'en parler la semaine passée, là, le fameux Blackjack. Là.
Ouais.
Mm-hmm. Ça, c'est Joe Pavelski qui l'a emporté. Donc, il fallait tirer des cibles sans dépasser le numéro 21.
OK.
Et c'est lui qui a gagné. Donc, comme j'ai dit, c'était pas le jeu le plus divertissant, le plus animé. Mais. Mais bon, l'aspect de stratégie, c'est sûr que ça venait bien complémenter avec Las Vegas. Mais non, ça fut un flop.
Non, pense. Ben peut-être qu'ils peuvent essayer l'année prochaine avec d'autres jeux de cartes. J'y verrais bien jouer au trou de cul, là, c'est personnellement.
Ben ouais. Mais
l'année prochaine.
Est-ce qu'on sait l'an prochain, c'est où que ça se passe?
Aucune idée.
On sait pas.
Bon. Aucune idée. C'était Adam Pelleck qui m'a étonné au tir le plus puissant. 102,2 milles à l'heure. Adam Pelleck, qui est bien connu dans sa famille.
Bien sûr.
Who the fuck is Adam Pelleck? Non, mais c'est un défenseur des Islanders de New York. Mm. Les Islanders vont tellement pas bien cette année qu'évidemment, il ne se démarque pas. Mais il était là au match des étoiles par défaut, peut-être, parce que ça prend un joueur de chaque équipe.
Ouais, c'est ça. On dirait que c'est pas tout le monde qui est d'honneur.
Mais ouais, quand même, 102,2 milles à l'heure. Bravo, Adam Pelleck. Mais c'est ça.
Puis le match des étoiles, sinon le lendemain, ça s'est vraiment dessiné avec Claude Giroux qui a été nommé la MVP du dernier match avec deux buts. Donc,
il a gagné un char, a donné un VUS. Bravo, tu sais, il y a tellement besoin d'un VUS. Ben oui, écoute. Ça va à des œuvres caritatives, là, ces autos-là, là, rappelons-le. C'est pas, il fera pas prendre la poussière dans son double garage. Là, mais, donc voilà, je trouve ça un peu cave de donner un char là, par principe, de donner là à.
Ouais, mais c'est la commandite, c'est, t'as besoin d'un.
C'est
comme les joueurs après qui disent quand ils gagnent la Coupe Stanley, qu'est-ce qu'ils font après? On va aller à Walt Disney.
Ben ouais, c'est ça. C'est con. En tout cas, bref, c'est un shit show pour moi, le Magic Étoile. Ben honnêtement, dans la Ligue nationale,
je pense que côté cote d'écoute, ça a été un peu en baisse, mais le monde a quand même été au rendez-vous. Là. Ça reste que c'est quelque chose de différent que regarder un match traditionnel.
C'est ludique, c'est divertissant. Si t'as rien d'autre à faire dans ta journée, écrase-toi dans le sofa. Mais à part ça, écoute.
C'était ma deuxième meilleure option. Écoutez, le match des étoiles en premier lieu, dormir.
Moi aussi, je préfère cuisiner pour une bonne bouffe et de la musique. Ouais. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. PA, il y avait un événement assez inusité samedi, alors qu'un bonhomme, un gars anglophone, est rentré au troquet et a dit « Est-ce que vous présentez le NASCAR? » D'habitude, je m'en fous le NASCAR, mais il y a une course de NASCAR dans un stade, du Rose Bowl. Puis là, ce match-là, cette course-là, c'est tout petit, là, c'est genre, ça va être un bordel. Il y a dit ça à peu près, là,
imaginez qu'il y a une course de NASCAR sur le terrain du Rouge et Or de l'Université Laval. C'est exactement ça.
Une course de NASCAR sur le stade du Pep. Ça
serait très drôle, surtout si on regarde la pelouse. Mais non, c'était vraiment très petit. C'était le stade dans Mario Kart, le stade,
Park,
le Baby Park. C'est exactement ça. C'est petit, ça s'entrait dedans. Ça allait maximum à 100 km/h.
Ça se lançait des tortues bleues. Ouais. C'était le bordel.
Mais bref, c'est beau. Par contre, c'était très beau. Il y avait très peu de spectateurs. Par contre, on est encore un peu dans les mesures sanitaires. Mais définitivement, au Los Angeles Memorial Coliseum, c'était magnifique à voir. C'était très beau, mais c'était plate. C'était plate.
Tu m'étonnes. Hey, Joe, je te disais aussi que les activités dans la Ligue nationale reprenaient. Alors que PA, c'est un au revoir parce que t'as un cours au Cégep Limoilou, donc tu fais le chemin inverse
c'est
à l'instant même. Bonne route.
Merci
bon beaucoup. Bon RTC. Yes.
Soit tu en prennes moins de temps que 52 minutes.
Ouais, c'est ça.
Ça devrait être en plein après-midi.
Si mon prof m'écoute, j'arrive peut-être 2 minutes en retard.
Il nous écoute probablement pas, mais c'est pas grave, bien sûr. On le salue quand même. Joe, les activités dans la Ligue nationale ont repris. Là, le vrai hockey recommence.
C'est
le fun, puis c'est le dernier droit. Pour plusieurs équipes, alors qui se bataillent pour une place en série éliminatoire, j'ai pris un malin plaisir à la fois déchiffrer les statistiques pour les pooleurs, mais aussi pour les amateurs is de hockey. Quelles sont les plus grandes déceptions et quelles sont les plus grandes réjouissances?
Au niveau des joueurs,
depuis le début de la saison. En triste hommage aux manifestations, j'appelle ça les camions surprises de la mi-saison. Donc, parlons des joueurs qui, à mon humble avis, dépasse les attentes. Du moins, les attentes qu'on avait portées en eux.
Okay.
En début de saison ou pendant l'entre-saison. Je commence avec Jonathan Huberdeau qui, à l'instant où on se jase, au moment même, est le meneur pour les points dans la Ligue nationale. Jonathan Huberdeau, petit gars de chez nous, hein? L'ancien des Sea Dogs de Saint-Jean, repêché 3e au total par les Panthers de la Floride. On s'entend, là, les Panthers de la Floride, cette année, c'est une équipe... d'aliens. Excellent, ils cassent tout, effectivement. Jonathan Huberdeau a 66 points en à peine 40 matchs. excellent, même qui dépasse les McDavid et Drysdale, qui normalement sont les l'espèce de puissance à deux têtes. Huberdeau les dépasse, alors que Barkov a peut-être à peine un point par match cette année. Donc, Huberdeau est vraiment on a roll. Il est en feu, Jonathan Huberdeau. Donc, à mon humble avis, je trouve que c'est le gars qui dépasse le plus les attentes, même si on sait que c'est un excellent marqueur, un des meilleurs ailiers gauche dans la Ligue, sinon le meilleur avec Alexander Ovechkin. Donc voilà, Jonathan Huberdeau. Ma deuxième petite surprise, c'est Nazem Kadri. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, personnage... comment dire, pas polémique, mais controversé. Un gars assez salaud aussi, a été suspendu à maintes reprises.
Mais avec un talent indéniable, quand même.
Talent indéniable, puis si on s'entend, c'est un excellent centre de deuxième trio, Nazem Kadri. Toujours une production avoisinant les 50-55 points par année, plus ou moins. T'sais. Là, cette année, il y a 60 points en 41 matchs, alors qu'au début de la saison, Nathan MacKinnon, le centre numéro 1 de l'équipe, ne jouait pas. Donc, Kadri a eu plus de responsabilités, du temps en avantage numérique. Il a répondu aux attentes, mais... à merveille. Puis même là, quand Nathan MacKinnon est en santé, sa production n'a pas baissé. C'est ce qui m'étonne. Il n'y a pas ralenti une motadine de seconde, Nazem Kadri. Là, il s'enligne sur une saison de 102 points. T'sais. C'est fou raide.
Ah, c'est pas rien. Puis même quand Nazem Kadri ne se met pas sa fiche de pointage, je trouve qu'il est quand même présent dans le match où il a quand même contribué d'une façon ou d'une autre. Ou... il est toujours présent.
Hey, puis c'est un gars qui est excellent aussi en infériorité numérique. Il gagne beaucoup de mises au jeu. Joueur très complet, Nazem Kadri. C'est son année de carrière, comme on dit. La career year. C'est sa meilleure saison là, depuis le début de sa carrière à Nazem Kadri. Donc on lui lève notre chapeau. Chapeau bas parce que c'est quand même un joueur.
Qu'on l'aime ou pas, il fait la job.
C'est un peu un mangeur de marde, mais quand même, il a un talent indéniable. Donc voilà, bravo Nazem Kadri. Dans les petites surprises aussi, j'ai noté le nom de Troy Terry. Troy Terry qui est un choix de quoi? Troisième ronde. En tout cas, il était repêché très tard, Troy Terry. Il joue avec les Ducks d'Anaheim. Écoute, c'est un marqueur là, naturel. Il y a un tir du poignet là, glacial. 41 points en 43 matchs, dont 21 buts, je crois. Lui aussi, sur une bonne séquence. Puis je l'aime beaucoup. Je l'ai pris au ballottage dans mon pool en début de saison. Puis écoute, je l'aime beaucoup.
Je trouve qu'il correspond parfaitement avec l'équipe des Ducks, justement, une équipe qui est on s'est mis en reconstruction un peu ou qui se remet sur pied. Je trouve que c'est un joueur parfait justement pour participer aux efforts de.
Et puis c'est il y a comme une certaine constante là, de constance dans l'équipe des Ducks d'Anaheim, issue du développement américain, du programme américain. Les Trevor Zegras, on en a parlé tantôt, il est américain aussi. Sonny Milano aussi, qui est un ancien de l'équipe nationale américaine au niveau junior aussi. Troy Terry, il y a même aussi Max Jones qui est là dans l'équipe, qui joue plus sur la troisième ou quatrième ligne. C'est un club très jeune, les Ducks. Jamie Drysdale en défense, joueur canadien. Fabuleux, fabuleux, très cute à voir aller. Non, les Ducks, bonne saison, puis je leur souhaite une présence en série, ne serait-ce que pour donner un peu d'expérience à ces jeunes-là.
Ouais, c'est ça, il va juste gagner de la confiance, puis la saison va aller, je crois. Puis le meilleur est à venir pour les Ducks.
Ah, clairement. Et dans 2-3 ans, c'est une puissance. Là. Ouais, dans 2-3 ans, c'est clairement une puissance. Sinon, un gars qui m'étonne parce que c'est un vieux routier. On pensait qu'il n'y avait plus vraiment de gaz dans le réservoir. Il a joué dans les années de gloire des Sharks de San Jose, les gloires en saison, du moins. Joe Pavelski, qui a 37 bougies sur son gâteau cette année, il m'épate pas, il me flabbergaste, cette fille. Il a 48 points en 43 matchs. Je suis vraiment déçu d'avoir levé le nez sur lui au repêchage de mon pool et aussi de ne pas l'avoir pris lorsqu'il était disponible au ballottage. Bref, Joe Pavelski, 48 points en 43 matchs, c'est le meilleur pointeur des Stars avec Jason Robertson, qui est peut-être justement la nouvelle garde à l'offensive du côté des Stars. Un club assez vieillissant quand même avec les Radulov de ce monde et Jamie Benn. Donc voilà, Jason Robertson, Joe Pavelski font la pluie et le beau temps à Dallas.
Ouais, c'est bien incrusté. Là. Moi, il y avait tellement un fort rôle, je trouve, avec les Sharks de San Jose qu'en débarquant avec les Stars, c'était un gamble un peu.
Oui, quand même.
Finalement, ça... que du bien, autant pour lui, autant que pour l'équipe, puis pour les joueurs, j'imagine qu'il fréquente aussi.
Ouais, il est en voie de dépasser son sommet personnel au niveau des statistiques. Il est sur une séquence, en tout cas, en prévision, en projection d'une saison de 89 points, alors que sa meilleure saison date de 2013-2014, alors qu'il avait fait 79 points. Pocket Joe, qu'on l'appelait, alors qu'il y avait Jumbo Joe et Pocket Joe. Donc, Joe Pavelski, bravo. Colin Bean, tu vieillis comme le bon vin. Sinon, dans les surprises aussi, il y a Mats Zuccarello, hein, le petit viking de son surnom, joue avec le Wild du Minnesota. 42 points en 35 matchs. Il joue avec Kirill Kaprizov, donc d'où sa performance, d'où ses statistiques. Quand même, c'est un joueur un peu sournois, c'est un couteau suisse, là, Zuccarello, même s'il n'est pas suisse. Là, mais en tout cas, je le trouve quand même intriguant. Il a peut-être lui aussi 33-34 ans, c'est pas un genou. Il patine assez bien, c'est peut-être justement pour ça qu'il est encore dans la ligue, alors que les gros gabarits, les gros gaillards ont de la misère à suivre le rythme des jeunes fringants. Pour vrai, Mats Zuccarello m'étonne. 5 pieds 8, 181 livres, c'est un petit format. 42 points, 35 matchs, alors qu'il a 34 ans. Le Norvégien est assez étonnant.
Puis t'as raison, c'est vraiment pas un débutant dans la ligue, là, je veux dire.
Il a joué avec les Rangers, il a eu des bonnes saisons avec les Rangers.
Mais il réussit toujours à être utile ou à être efficace, ou du moins, tu sais, des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui perdent de la valeur en vieillissant, mm-hmm. ou lui, il réussit à garder une certaine valeur, je trouve. Puis surtout avec le Wild, je trouve que ça le réunit.
Ouais, puis c'est justement, je pense que c'est son coup de patin qui le tient au chaud dans la Ligue nationale.
Une petite équipe rapide comme le Wild du Minnesota.
Tellement.
Il suit la vague.
Tellement. Sinon, j'en ai deux autres surprises à noter. Vladimir Tarasenko. OK, son talent, on le découvre pas cette année, là, le vieux Vladi. Vladimir Tarasenko, il a 41 points en 40 matchs cette année, alors qu'il y a eu une énorme blessure au genou l'an passé qui l'a tenu à l'écart de presque toute la saison, à un point où on l'a même laissé disponible au repêchage d'expansion. Imagine, le Kraken aurait pu repêcher un gars comme Vladimir Tarasenko, mais non, on a opté pour la fonte cave puis le repêchage. On a décidé de tanker, comme on dit en bon français, donc de perdre volontairement. En tout cas, Ron Francis, si tu fais pas ça, t'es un hypocrite là, de haut niveau. Voilà, Vladimir Tarasenko, pour vrai, il m'étonne. Après, les Blues de Saint-Louis, c'est de loin, en tout cas, à mon humble avis, le club le plus complet dans la Ligue nationale de hockey, le club le plus profond, si je peux dire ça. Là. Sur chaque ligne, on peut marquer des buts.
Puis lui qu'on n'a pas vu non plus au match des Étoiles en fin de semaine, là. Je sais pas si c'était par choix ou par...
Je pense que oui. C'est ça, ça lui appartient. Je pense qu'il est mieux peut-être soigner ses petits bobos que d'aller
festoyer. C'était Jordan Kyrou, dans le fond, qui était représenté pour les Blues.
Ça. Après, lui aussi, il a pas volé sa place. Là. Je pense qu'il y a un point par match presque cette année.
Non, c'est clairement mérité.
Yes.
Ça fait des flamèches avec Vladimir Tarasenko. J'ai pas regardé beaucoup de matchs des Blues cette année, mais
j'en écoute quelques-uns. J'aime beaucoup Ryan O'Reilly, Braden Shen aussi qui est revenu au jeu. Pavel Buchnevich, excellent aussi, russe. Donc voilà, en tout cas, à suivre. J'aime bien l'équipe des Blues. Je pense même qu'ils peuvent remporter les grands honneurs cette année. Sinon, dernière belle surprise. Mon dernier camion surprise, c'est Matt Duchesne. Matt Duchesne avec les Predators de Nashville qui aussi peuvent se tailler une place en série grâce notamment aux performances de Matt Duchesne. Ducci, 41 points en 42 matchs, dont 21 buts, alors que ce gars-là a les chevilles en compote. Ça m'étonne vraiment. Il y a plusieurs gars qui ont des seconds souffles. On parle notamment de Mikael Granlund qui a près de 40 points aussi cette année. Ryan Johansson qui est comme un peu le gars polyvalent dans cette équipe-là, le centre polyvalent du moins, avec Philip Forsberg qui est une valeur sûre, qui est une production constante. L'attaque des Prédateurs est sous-estimée, je pense. Puis la resurgence d'un gars comme Matt Duchesne, ça fait du bien. C'est ma dernière surprise, c'est mon dernier camion surprise, Matt Duchesne. Moi, je pensais plus qu'il allait avoir de bonnes statistiques comme ça, près d'un plus qu'un point par match, du moins à un point par match presque là, cette année. Étonnant pour un gars qui a plus de cheville. Puis il a déjà fait Team Canada, donc c'est pas rien, si on s'entend. Là. Donc voilà, dans les crevaisons de mi-saison, donc mes flops, mes déceptions. Crevaisons de mi-saison, je commence avec Elias Pettersson des Canucks de Vancouver. Après, c'est difficile à dire parce que le club en soi n'allait pas bien en première portion. On a congédié Jim Binning, on a congédié Travis Green.
Ouais,
on a fait le grand ménage. L'arrivée de Bruce Boudreau a donné un petit regain de vie à cette équipe-là, qui était amorphe, surtout offensivement. Mais Elias Pettersson est encore traîne la patte, il ralentit. J'espère qu'il, j'ai l'impression qu'il patine avec un trailer de 8 pieds. Stiffy, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui, mais pour un gars aussi talentueux, c'est bizarre. Il prend moins de tirs aussi, ouais. Donc il prend moins de tirs que JT Miller puis Brock Besser, eux qui
s'occupent un peu. Ça serait tellement dommage là, il y avait tellement un potentiel énorme chez lui là.
L'enfer.
Il est vraiment fougueux, il est fun à voir aussi.
Ouais, vraiment.
Ça serait dommage pour lui.
Longue portée.
Ça devrait s'écraser de même. Ça serait vraiment un flop comme histoire.
Oui, vraiment, vraiment. Donc, mais tu sais, là, on s'entend, le Beau Horvat non plus, ça va pas full bien. Son compagnon de trio, son joueur de centre. J'ai espoir que les Canucks vont remporter un peu plus de matchs en deuxième portion, justement parce que là, la sauce puis la formule de Bruce Boudreau va peut-être rentrer entre les deux oreilles de ces petits gars-là, parce que c'est un coach à caractère offensif là, qui a eu le tour d'aller chercher les meilleurs éléments offensifs, en tout cas sortir le meilleur des joueurs offensifs lorsqu'il a été entraîneur notamment des Capitals de Washington.
C'est à voir le classement, t'sais, oui, ils sont quand même bas, mais je veux dire, je pense que toutes les équipes, mettons, sont moins le Canadien puis les Coyotes, toutes les équipes sont pas mal dans le portrait aussi, on connaît une bonne séquence. On reprend l'action ce soir du côté de Vancouver contre les Coyotes de l'Arizona. Donc, on peut peut-être commencer sur une solide
note. Ouais, ça serait le fun comme de 7-8-2, 7-8-3, là, un blow-out. Là, une vraie brassée de lavage. C'est exact. Ça serait le fun.
Malgré que une déchaînée comme ça, c'est pas toujours agréable à regarder.
Pas nécessairement pour les fans, mais pour les joueurs. En tout cas,
pour l'organisation.